أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a parlé la dernière fois de ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire une bonne interprétation de ce qui s'est passé entre les compagnons. Et que les chiites qui soulèvent ce problème qui s'est passé entre les sahaba, ce sont des êtres humains, et que chacun a essayé d'avoir, on va dire, de s'approcher de la vérité en faisant une sorte d'effort, ijtihad, interprétation. Bien sûr, ils interprètent pas à partir de leur ego, mais ils interprètent à partir d'un ijtihad, c'est-à-dire ils ont la capacité de tirer des commandements en se basant du livre saint et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que وَأَوَيْلِ التَّشَاجُرَ الَّذِي وَرَدْ إِنْ خُذْتَ فِيهِ وَاجْتَنِبْ الْحَسَدْ. C'est-à-dire que si ces grandes fitna qui a opposé des grands sahaba, à savoir Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah et d'autres qui étaient neutres, qui n'ont pas pris de position ni avec Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, ce sont tous des compagnons, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de tous que du bien, et que, comme disaient les savants, que c'est une fitna, bien sûr, qui a touché le monde musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé de participer avec nos épées dans cette fitna, que nous devons nous préserver de rentrer dans cette fitna avec nos langues. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Sayyidina al-Hassan, qui est son petit-fils, en disant que mon petit-fils, celui-là, en parlant avec Sahaba, il va arranger il va faire c'est-à-dire le bien en réconciliant deux grands de parties de croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu que ce sont deux, il n'a pas dit une partie mécréante, une partie hypocrite, etc. Il a dit deux grandes parties de, effectivement, Sayyidina al-Hassan, après la mort, comme j'ai dit, de Sayyidina Ali, après avoir été tué. Donc les musulmans, ils ont fait la bay'a, la plupart, à Sayyidina al-Hassan. Si le fils Sayyidina Ali, il est plein de courage, sagesse, science, le petit-fils du prophète, etc. Donc il avait tout le mérite d'être le calife. Mais étant donné que de l'autre côté, il y avait Sayyidina Muawiyah avec une armée, etc. Et qu'il y avait possibilité qu'il y aura confrontation, entre les deux parties. Donc, afin de préserver le sang des musulmans, bien que lui, il avait une armée beaucoup plus puissante que celle de Sayyidina Muawiyah, il a dit, moi, je ne prends pas le khilafa, je ne serai pas amir des musulmans, calife des musulmans. Donc, je reconnais la khilafa de Sayyidina Muawiyah, radiallahu anhu, et que j'invite les musulmans à faire ainsi, c'est-à-dire de lui donner le pacte, de reconnaissance qu'il est le calife des musulmans, afin que tous les musulmans, c'est-à-dire soient unis sous un seul khalifa, et que l'histoire lui a écrit ce grand mérite, et qu'il a répondu à l'appel, et que, c'est-à-dire que le prophète, c'est-à-dire il a fait ce que le prophète a dit, hein, il a réconcilié, c'est un acte historique, d'accord, que Sayyidina al-Hassan, radiallahu ta'ala anhu, a fait. Ensuite, on a parlé de Sayyidina Muawiyah, bien sûr, qui c'est un grand sahabi, qui, dont la sœur, elle était une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un des sahaba qui écrivait le wahi, etc. Mais malheureusement, son fils n'a pas suivi le chemin de son père, hein. C'était pas le même, c'est pas la même ligne. Taïb. Aujourd'hui, on va parler des quatre imams. Wa malikun wa sa'irul a'imma, kada Abu al-Qasim, hudatul umma. Dans les quatre imams, imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, فواجب تقليد حبر منهم. Donc il est obligatoire de suivre une école de fiqh. C'est une obligation. Ce n'est pas, bon, les recommander, je vais voir qui est-ce qui a un argument le plus fort, je le suis. Ben, t'es qui pour être au-dessus, c'est-à-dire du chef et du mal qui tu choisis. C'est comme si il est dans un supermarché, il va choisir, oh non, je prends celui-là. Non, c'est pas, ça ne se passe pas comme ça. C'est des grands imams de la Ummah. Tous les grands savants de la Ummah, ils étaient cadrés dans une école. Alors, qu'allons-nous dire nous-mêmes? C'est l'imam al-Qurtubi, il était malikite, le grand mufassir. D'accord? L'imam al-Bukhari, le grand savant du hadith, il était shafi'ite. Ibn Hajar al-Asqalani, il était shafi'ite. L'imam al-Nawawi, wa ma adrak, il était shafi'ite. L'imam al-Sarkhas, il était hanafite. Abu Yusuf Yaqub, il était hanafite. D'accord? L'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était hanbalite. D'accord? Donc, Ibn Qudama, il était hanbalite. Ibn al-Qayyim, hatta Sheikh Mohammed ibn Abdelwahab, il était hanbalite. Donc, c'est des grands imams, ils étaient cadrés dans une école parce qu'on ne peut tirer les commandements directement du livre saint et de la sunna, sauf si on a atteint un degré très élevé, voire arrivé au degré de l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. Et c'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de cas de savants qui ont atteint ce degré-là de tirer directement les commandements du livre saint et de créer une école, comme l'a fait l'imam Abu Hanifa, ou Shafi'i ou Malik, ou bien d'autres savants de leur époque, tels que l'imam Al-Awza'i, ou bien l'imam Sufyan Al-Thawri, ou bien Ibn Uyayna, ou bien Tabari. Mais ceux-là, c'était des grands savants qui tiraient les commandements directement du livre saint, etc. Mais dont les disciples n'ont pas travaillé leurs écoles. Donc ce sont des écoles qui n'existent plus. Donc quand on a des avis de grands savants, tels que ceux que je viens de citer, Ibn Uyayna, ou Thawri, ou Al-Awza'i, ou Tabari, et que leurs avis de fiqh, de fatwa, etc., les bases, les règles de leurs écoles, n'ont pas été travaillées, c'est-à-dire n'ont pas été suivies par des disciples, qui ce sont les disciples qui font, c'est-à-dire qui donnent vie à l'école, comme est le cas de l'imam Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou bien Malik, ou bien Ahmed Muhammad. Donc ce sont les disciples qui prennent en considération les avis de leur cheikh, de le fondateur, et qui donnent, ils suivent le chemin de leur cheikh en se basant sur les grandes bases et axes que le cheikh a fait pour continuer, pour donner les fatwas selon les conditions et les règles et les bases et la méthodologie que le cheikh a fondée, l'imam a fondée. Donc ces grands imams, la Ummah a connu depuis 13 siècles, on va dire, bien 14 siècles, ces grands imams-là qui ont préservé la charia pendant toute cette période-là. Donc quand on, historiquement parlant, même aujourd'hui et géographiquement, ce sont ces écoles-là qui ont préservé la charia. Moi, ça me fait rire quand j'entends un pseudo-cheikh, entre guillemets, qui dit « les quatre écoles ont déchiré la Ummah ». Vraiment, ça fait rire. Les quatre écoles ont déchiré la Ummah. La Ummah n'est devenue déchirée que le jour où on a voulu sortir des quatre écoles. D'accord. Imam Saboni, qui a enseigné en Arabie Saoudite pendant 30 ans le tafsir, il a reproché à quelques chiouchs qui disaient, écoutez, nous, de toute façon, on ne prend pas des quatre écoles, nous, on fait l'ijtihad. Il leur a dit, pourquoi on fait l'ijtihad? Ils ont dit, parce que quatre écoles ont divisé la Ummah. Il leur a dit, et vous, avec votre ijtihad, vous allez créer une cinquième, ça sera pire. Donc, autant rester dans quatre que cinq. C'est-à-dire, il leur a reproché, déjà, votre logique, elle est fausse. Malgré qu'il a enseigné 30 ans en Arabie Saoudite, allez hop, ils l'ont éjecté du jour au lendemain à cause de ça. Enfin, yani, subhanallah, la Ummah, elle a connu, c'est-à-dire son âge d'or. Vous prenez l'Empire Ottoman, qui est un empire basé sur le fiqh hanafi. Il a géré, il était maître du monde à un moment donné, tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire le sud européen, on va dire le sud d'Afrique, etc. À un moment donné, c'était les maîtres du monde, d'accord, c'est-à-dire la marine du bassin méditerranéen était entre leurs mains, que ce soit des Américains ou bien des Français, des Prusses, etc., payés l'impôt aux Ottomans afin de passer. C'est-à-dire, ils avaient leur monnaie, ils avaient leur quava, ils avaient leur diwan. Et tout ça était géré à partir du fiqh hanafi. Vous avez un fiqh qui était la gestion administrative de tout un empire. À l'époque abbasside aussi, vous avez des chefs et fiqh maliki. Donc, dire que ces écoles-là, c'est-à-dire, empêchent la civilisation, etc., c'est complètement faux. L'âge d'or de l'islam a été géré à partir de ces écoles-là qui ont donné une richesse extraordinaire de jurisprudence, etc. Donc, tous les savants qu'on a connus à travers notre histoire, qui ont la fierté de la pensée musulmane, appartiennent à une de ces écoles-là. C'est-à-dire, tous les savants, soit vous allez le trouver, maliki, je parle des sunnites, hein, soit shafi'ite, soit maliki, soit hanafite, soit hanbalite. Me font. Mais aujourd'hui, mais depuis 70 ans, quelque chose comme ça, on a maintenant des gens qui sortent de je ne sais pas d'où. On ne prend pas des catécoles, tu prends de quoi? Ben, soit il te dit, on prend de la vie le plus fort, d'accord? C'est comme si il a la capacité de comprendre les avis et voir, de nous dire qui est le plus fort. Parce que la question, elle existe, la question de tarjih, des débats qu'il y a entre les écoles. Chacun ramène son argumentation. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas en prenant un livre. D'ailleurs, il y avait des tentations. Sheikh Sabah, dans son livre Hassouna, qui est. Ou bien Sheikh Jabal Jazel, dans son livre Minhaj Muslim. À peu près, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire de ramener entre les écoles, ils regardent, ils disent voilà, cet avis-là, c'est le plus fort. Or, c'est beaucoup plus compliqué que cela. C'est-à-dire, il y a des débats entre des grandes sommités de ces écoles-là, et l'argumentation, ça reste débat entre écoles. On ne peut pas dire que, voilà, ou bien dire l'avis majoritaire, je suis l'avis majoritaire, parce que il y a trois écoles qui ont dit l'avis, il est comme ça, et une école qui dit que l'avis est comme ça, que, c'est-à-dire, nous devons suivre la majorité. Ce n'est pas comme ça. Chaque école a là son argument dont elle s'inspire, et tous... Ils sont dans le haq, ils sont dans la vérité, puisqu'ils se basent sur des choses solides et que la diversité, c'est la richesse de l'islam. Donc, ce n'est pas une diversité contradictoire, c'est une diversité qui fait la force de l'islam et des musulmans. Me font, Inch'Allah. Et que ces grands imams, ils ont divergé sur leurs avis parce que les règles et les bases et la méthodologie dont ils ont fondé leurs écoles n'est pas la même. Chacun se base déjà sur une école, parce qu'il y a des écoles de langue arabe, il n'y a pas une école de langue arabe. Les plus grandes écoles prestigieuses de langue arabe irakienne, l'école d'Al-Basra et l'école de Koufa, qui ont deux méthodologies, et ils ont des savants, et etc., qui divergent sur plusieurs sujets, d'ailleurs de grammaire, dans la langue arabe, hein. On a des savants qui se basent sur telle et telle école. Ils se basent sur, pour expliquer un verset, ils se basent sur l'avis linguistique d'une école. D'accord ? Déjà, l'une des causes qui fait la divergence entre ces grands ulamas. Deuxième chose, on a les savants divergent parce que chacun se base sur une lecture. Quand je dis lecture, ce n'est pas le sens lecture interprétation, non. Il y a lecture du Coran, c'est-à-dire on a sept lectures rapportées du Coran. Par exemple, on lit Hafs, Malik et Yawmiddin, si on dit Malik et Yawmiddin, d'accord. Donc, et toutes les lectures sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. On dit que des lectures, telle lecture, parce que il y a des tribus qui sont en rapport avec les tribus de l'époque, hein, il y a cette interprétation-là. Donc on a sept lectures authentiques. D'accord. Que sauf le manfouch, que l'aïn le manfouch. Des fois, on a complètement des mots qui ne sont pas les mêmes. Et vous savez qu'en langue arabe, juste une fatha, une kasra, change le sens. Donc, quand un savant se base sur une lecture et un autre se base sur une autre lecture, évidemment, ils ne vont pas tirer les mêmes commandements. D'accord. Ou bien, fallait. Voilà, un verset. حتى يطهرنا ou bien حتى يتطهرنا يطهرنا ويتطهرنا c'est pas la même chose. Donc dans les ablutions de femmes qui a les règles, il y en a ceux qui se basent sur une lecture qui dit حتى يطهرنا, on n'a pas le droit de toucher les femmes حتى يطهرنا jusqu'à ce qu'elles n'ont plus de sang. L'autre lecture dit hatta tatahharna, jusqu'à ce que elles font les grandes ablutions. Non seulement il faudrait qu'elles soient, qu'il n'y a plus de sang, mais il faut faire les... Donc chacun s'est basé sur une lecture pour, évidemment, quand on se base sur une lecture, on a un hukm qui est divers. Et on ne peut pas dire celui-là qui a raison, puisque les deux ont raison et les deux viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire très attention à cela. Donc on a divergence la cause, parce qu'on a, on s'est basé sur une école de grammaire, de langue arabe, sur la lecture. Ensuite, la méthodologie utilisée, c'est-à-dire chacun authentifie un hadith, l'autre ne l'authentifie pas. D'accord? C'est-à-dire l'un, il l'authentifie un hadith, l'autre, il ne l'authentifie pas, il a des arguments pourquoi il ne l'a pas authentifié. Voire, même s'il l'a authentifié, il a un autre argument plus fort que le hadith, c'est l'interprétation qu'il donne au verset qui passe en priorité par rapport au hadith. Donc ce n'est pas parce que le hadith est authentique qu'automatiquement on l'applique. Donc c'est le savant qui va nous dire quel est le commandement qu'on va tirer du hadith. Est-ce que le hadith il est abrogé, abrogeant, spécifique, général, relatif, absolu? Tout ça, il y a une science qui s'appelle la science de Usul Fiqh qui fait que le grand savant Mujtahid, c'est lui qui nous dit le verset ou le hadith, quels sont les commandements qu'on va tirer du verset ou du hadith. C'est très important. Donc ça, c'est dans la méthodologie de chacun de ceux qui ont fondé les écoles qui fait qu'ils ont divergé sur leur commandement. Aussi, on peut trouver des arguments qui sont valables chez les uns qui ne sont pas valables chez les autres. L'imam Malik, il a ce qu'on appelle Amal Ahl Medina, l'acte des gens de Médine, c'est-à-dire ce que les gens de Médine. L'imam Malik, il a vécu à Médine, donc il a vu que les gens de Médine, pratiquaient, ils avaient des pratiques, on va dire, amal, c'est-à-dire des pratiques qui contredisaient des hadiths que eux-mêmes, les gens de Médine, qui les ont rapportés. D'accord? Donc ils rapportent des hadiths et que eux, dans leur pratique, ils font des choses. Quand je dis des choses, les gens, ce n'est pas les gens du commun des gens, c'est les savants. D'accord? C'est des savants de Médine. Donc l'imam Malik dit à ce moment-là, c'est une preuve que ces savants-là, ils ont vu les compagnons faire cela. Parce que lui, il a 900 cheikhs, l'imam Malik, il a 900 cheikhs. Donc 300, ce sont des élèves des sahaba. Et 600, ce sont les élèves des élèves. D'accord. 300, ce sont les élèves des sahaba. Donc, il constate que les élèves des sahaba ont une pratique contraire à ce que eux-mêmes rapportent dans un hadith. Donc pour lui, automatiquement, ils ont un argument plus fort. C'est qu'ils ont appris cela chez les sahaba qui ont appris chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là, mais peut-être qu'il l'a dit dans une circonstance bien spécifique, ou bien que le hadith il a été abrogé, etc. Donc il faut faire très attention que ce n'est pas parce que le hadith il est authentique rapporté par Bukhari ou Muslim ou Mu'tah, ce que vous voulez, qu'on doit l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une grande halotte pas possible. On en a marre de faire, on va dire, de faire jouer le commun des gens le rôle des savants. Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends un livre, tu viens aux gens, tu leur dis, regardez les hadiths, il faut les appliquer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si, maintenant en médecine, je prends le Vidal, allez, tiens, viens, toi, tu deviens médecin, allez, hop, tiens. Tu prends le Vidal, alors, en médecine, tiens, t'as quoi? T'as mal à la tête, attends, celui qui a mal à la tête, allez, hop, c'est pas comme ça. Donc, en charia, c'est encore pire, c'est-à-dire, c'est pas comme ça. C'est des sciences, c'est très spécifique, il faut cheminer, il faut aller doucement pour, c'est-à-dire, le rôle de savant, il faudrait qu'elle soit un rôle de savant. Le rôle du commun des gens, il est là pour apprendre. Il est là, il n'est pas là pour lui endosser un rôle que lui ne connaît pas, il ne connaît rien. Parce qu'il y a une semaine qu'il commence la prière, on lui donne un livre de hadith, tiens, applique-le. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ces grands imams, ensuite, il faut faire distinction entre un livre de hadith et un livre de fiqh. Sahih al-Bukhari, ce n'est pas un livre de fiqh. C'est un livre de hadith qui est destiné aux savants pour tirer les commandements. D'accord? Ce n'est pas à nous de tirer les commandements. On va apprendre à faire le wudu, sunnah. Je vais te donner une question de taqiyya salat. Alors, tu rentres, tu trouves l'imam en train de faire tashahhud, tu as oublié, tu te mets debout, tu es assis. Ce jour de qabli, va chercher ton Sahih al-Bukhari. Tu vas rester une année à chercher, tu ne trouves pas. Donc, il y a un livre, le livre de fer, c'est pour le simplifier, toutes ces tâches-là, que les savants tirent déjà du Coran, et quand ils ne trouvent pas, ils vont chercher dans la sunna, et chercher dans la sunna, ce n'est pas chercher dans un livre, attention. Déjà, ce qu'eux, ils ont mémorisé, il ne va pas chercher dans le Bukhari, il ne trouve pas, muslim, non, Nisa'i, non, il a déjà ce qu'il a dans sa tête, lui, et avec... en cherchant, et quand il trouve la question, il va la comparer, parce que, comme disait l'imam Ahmed ibn Hanbal, on ne peut comprendre un hadith, la yumkin lana an nafham hadithan illa bi jam'i tuluqih, c'est-à-dire un hadith, tu ne peux le comprendre, sauf si tu as rassemblé toutes les chaînes de différents chemins qui ont ramené ce hadith-là. D'accord ? Le hadith, il a rapporté... Le même hadith, il est rapporté par ce sahabi par telle version, il est rapporté par ce sahabi telle version, sahabi telle version. Quand tu les rapportes, tu peux avoir la compréhension du hadith, la compréhension. Prenons le hadith al-Jariya, rapporté par l'imam muslim. Le hadith, il est rapporté par 18 sahabis, c'est-à-dire 18 façons. Même celle qui est rapportée par l'imam muslim, il y a un commentaire de grands savants qui disent... que celui qui a rapporté le hadith, rawi le hadith, rawahu bil ma'na, il a rapporté le sens, c'est parce que des fois, celui qui rapporte le hadith ne rapporte pas mot à mot ce que le professeur a dit, mais le sens de ce que le professeur a dit. Donc lui, il dit ce qu'il a compris, c'est très important. Et c'est le commentateur du hadith, tel Imam Nawawi ibn Hajar, qui nous dit, voilà ce qu'on peut comprendre du hadith. Donc, le hadith al-Jariya, comme vous le savez, quand on parle tout le temps, il est rapporté par l'imam Malik, il est rapporté par Abdul Zak, il est rapporté par l'imam Muslim, il est rapporté par plein de... On ne peut pas se focaliser, donc l'imam Ahmed nous dit qu'il faut rapporter toutes les chaînes de hadith et comparer les chaînes de transmission, et comparer le sens, et comparer avec d'autres arguments qui sont peut-être beaucoup plus forts, et voir s'il n'est pas spécifié, voir s'il n'est pas abrogé, pour dire, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de facile. Donc ces savants-là qui ont divergé, ils ont une méthodologie, les quatre écoles, chacun a une méthodologie pour arriver à un hukm, pour sortir une fatwa qui diverge de l'autre. Donc c'est très normal qu'ils divergent sur les hukm. Et c'est pour cela que quelqu'un qui prie comme ça, ou bien il prie comme ça, les mains libres, ou bien il prie comme ça, tous ils sont dans la sunna. D'accord ? Chacun a son argument. L'imam Malik, il a un argument très solide. Il a trouvé les sahaba prier comme ça, bien que c'est eux qui lui ont rapporté ce hadith-là, et que... lui-même, il le rapporte dans son Muwatta, bien qu'il a les deux avis, un dans la Mudawwala et l'autre dans le Muwatta. Et on peut trouver beaucoup de choses, c'est-à-dire, parce que le hadith, ce n'est pas ce que seulement le prophète a dit, mais ce qu'aussi le prophète a fait. D'accord ? Sallu kamara et tout moni salli. Parce que le prophète n'a pas dit, quand vous priez, mettez-vous debout, faites le record, relevez le record, faites le sujud. Il n'a pas dit ça. Donc le professeur sallam, il a dit, priez comme vous me voyez en train de prier. Donc surtout la prière, elle a été rapportée sur ce que le sahaba nous ont décrit. D'accord ? De ce qu'ils ont vu du professeur sallam. Donc la sunna, c'est ce que le professeur sallam a dit, ce que le professeur sallam a fait, mais aussi ce qu'il a autorisé, ce que les sahaba ont fait devant lui, et qu'il a autorisé, ça aussi c'est la sunna. Mais faut m'inchallah. Donc les quatre écoles, les quatre imams qui ont existé à travers notre histoire jusqu'à aujourd'hui, le musulman doit être encadré dans une école. D'accord. Si des grands imams, ils sont, l'imam chef, l'imam Nawawi, il dit j'aurais souhaité être un poil dans la poitrine, dans le torse de l'imam Shafi'i. J'aurais souhaité être un poil, subhanallah. L'imam Nawawi. Alors que dire l'imam Shafi'i? Subhanallah. Yani, c'est pas. Quand vous avez des grands imams tels que Sufyan Thawri, Ibn Uyayna, qui disent Laoula Malik, la dalalna fil hadith. S'il n'y avait pas l'imam Malik, nous serons perdus dans le sens du hadith. C'est l'imam Thawri qui dit ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? On a lu un, deux livres de hadith, khalas, on est des savants. Subhanallah. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enseignant. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas en lisant un, deux, trois livres, en se basant sur un livre, qu'on devient un spécialiste. C'est son métier-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces grands savants... quand même, c'est pas n'importe quoi. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a atteint un stade le plus élevé dans le sens du hadith, Amir al-Mu'minin, un stade qui s'appelle l'émir des croyants dans le sens du hadith, c'est pas donné à n'importe qui. Imam Ahmed, qui connaît 1 million de hadiths par cœur, par chaire de transmission, c'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe quoi. Imam Abu Hanifa, qui avait 4000 sheikhs, c'est pas n'importe qui. 4000 sheikhs, vous imaginez. Donc, Ce sont des gens qui c'est-à-dire c'est rare historiquement qu'on voit des cas pareils. C'est rare. Donc ces grands imams-là, on est dans l'obligation de les suivre. Non. Et quand on dit on est dans l'obligation de les suivre, c'est-à-dire on doit suivre une école. Et aujourd'hui, on a les écoles se sont un peu se situent géographiquement, d'accord. Vous avez tout ce qui est Maghreb, Afrique, un peu Europe, une partie de l'Égypte, c'est l'école malikite. Vous avez l'école Hanafite, Turquie, tout ce qui est Bosnie, du côté de la Tchétchénie, la Chine, l'Asie centrale, un peu en Orient, un peu en Syrie, Liban, tout ça. Et vous avez l'école Hanbalite, qui reste beaucoup du côté d'Arabie Saoudite, ancrée. Vous avez l'école Shafi'ite qui est un peu en Indonésie, en Syrie, Jordanie, Palestine, Liban, Égypte, etc. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim, Is'alu fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Sourate des Abeilles, verset 43. Demandez aux gens de science quand vous ne savez pas. D'accord ? C'est-à-dire, il faut demander. Non. Donc, il nous est interdit de prendre les avis, même si c'est des avis des sahaba. Je prends un livre, tiens, un sahabi, il a fait ceci, cela. Tiens, un sahabi, il est rapporté qu'un sahabi, il a fait ceci, cela. Je prends, non, je ne prends pas cet avis-là. Si je prends cet avis-là, c'est comme si je suis allé vers un hadith, j'ai pris, ou bien inversé. Qui te dit que le sahabi, en faisant cet acte-là, c'était son dernier acte qu'il faisait, il ne faisait pas un autre acte qui abrogeait celui-là. Qui te dit que le sahabi, ce n'est pas spécifique à lui? Qui te dit qu'il n'y avait pas un argument beaucoup plus fort chez un autre sahabi? Il faut faire très attention. Mais faut. Soit un sahabi, ou bien un avis. Je trouve l'avis d'Ibn Uyayna, il faisait ça. Je trouve même l'imam Malik. J'ai l'imam Malik. Il faut que je prends ce qui m'est destiné à mon niveau dans un livre de fiqh écrit par des savants qui me facilitent la tâche. C'est une question de pratique. Mais faut. C'est-à-dire, il faut qu'on cesse de jouer le rôle des savants. On n'est pas des savants. C'est-à-dire, les commandements, tirer les commandements directement des textes ou bien des avis des savants, c'est le rôle des savants qui connaissent, c'est-à-dire les différents textes qui traitent de la question. Parce qu'on ne peut pas, pour tirer un commandement, se baser que sur un texte ou un seul avis. Il faut voir tous les avis. Et tous les avis, on n'a pas le temps. Ce n'est pas à notre niveau. C'est pas, on n'a ni les moyens, ni le temps, ni... d'accord. Non. Alors, donc, être cadré dans une école, bien sûr, c'est une obligation. Mais est-il autorisé de quelqu'un qui appartient à une école de prendre un autre avis? Qui appartient à l'autre école. Bien sûr, il est autorisé. C'est autorisé. Puisque tous, ils sont dans le cadre de la charia. Mais les savants, ils ont mis des conditions pour cela. Que la personne qui fait ça ne passe pas son temps à faire ça en cherchant la facilité. D'accord. Je cherche chez les malikites, c'est plus facile dans le wudu, hop, je prends. Chez les ahnaf, c'est difficile, leur prière, et quand ils bougent trois fois, bon, je prends chez les malikites, puisque c'est plus... Donc, je cherche la souplesse un peu... c'est-à-dire, non. Non. Donc il est autorisé que quelqu'un qui appartient à une école de prendre un avis dans une autre école, mais il faut le maîtriser dans l'école. Par exemple, je suis malikite, je veux maintenant faire prière, on va prier. Donc je vais prier selon l'école hanifite. Est-ce que quelqu'un veut me dire non, c'est interdit, tu es malikite? Non, c'est autorisé que je prie selon l'école hanifite, il n'y a aucun problème. À condition que je maîtrise tout ce qui concerne les obligations, les interdits, ce qui est annulé, selon l'école hanafite, puisque je veux la faire selon l'école hanafite. Est-ce que vous avez compris? Et des débuts jusqu'à la fin, ce n'est pas la première raka selon l'école malikite, deuxième raka selon l'école shafi'i, troisième raka. Non. Là, je fais un acte, que ce soit siyam, que ce soit hajj, que ce soit wudu, etc. Il faut que je le fasse, c'est-à-dire dans le cadre de l'école, et que je maîtrise tout ce qui concerne cet acte-là dans cette école-là. Ou bien un faqih, un imam, un savant, un cheikh, maîtrisant 2, 3, 4 écoles, quand on vient lui poser une question, et que lui, il appartient par exemple à une école, et qu'il sait que la réponse, je vais donner un exemple, d'un de nos chouyours, on vient lui poser une question, vous savez, dans l'allaitement. L'allaitement, si, en islam, si deux enfants ont été allaités par une même femme, même si ce n'est pas leur mère, c'est interdit qu'ils se marient. D'accord ? C'est interdit qu'ils se marient. Alors, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire allaitement ? Il y a divergence entre les écoles. Qu'est-ce que ça veut dire allaitement ? Alors, il y a une école qui dit, allaiter veut dire, il a bu, c'est-à-dire le bébé, il a bu de celle qui a allaité, 5 gorgées, 5 fois. D'accord, il a bu 5 fois, espacé, et chaque gorgée, elle était, c'est-à-dire, il a bien bu, à chacune. D'accord ? Ça, c'est un allaitement. D'autres, ils te disent, d'autres écoles disent, non, l'allaitement, c'est une fois. Mais il a bien bu pendant une fois. S'il a bien bu pendant une fois, c'est un allaitement. Donc, vous voyez, ils ont divergé. Alors, imaginez quelqu'un qui vient et qu'il découvre qu'il est marié avec une femme et qu'il a des enfants avec elle, etc. Et que on lui dit, tiens, là, finalement, quand tu étais bébé, lui, il ne sait pas, on va lui dire, tu étais bébé, tu es un enfant, comment on dit, de lait, avec cette femme. Il va voir un cheikh. Donc ce cheikh-là, il appartient à l'école qui dit qu'un seul, une seule gorgée, s'il a bien tété, c'est un allaitement. Donc normalement, il devrait divorcer de cette femme, avec qui il avait des enfants. Mais, comme c'est un alim, c'est un savant qui connaît l'avis des autres écoles, il va, même si c'est dans son école, c'est-à-dire c'est considéré comme un allaitement, il va lui donner l'avis de l'autre école, parce que lui, il a allaité 1 ou 2 fois ou 3 fois, mais dans l'autre école, pour que ça soit un allaitement, il faut que ça soit 5 fois. Donc il va lui répondre sans l'avis de l'autre école afin de préserver cette famille. Sans lui dire, écoute, moi je suis maléquil, il ne dit pas, il ne rentre pas dans les... On va lui dire, on t'a dit combien de fois? On m'a dit, c'était 3 fois. Bon, il n'y a pas de problème, bon, t'inquiète pas, ce n'est pas considéré comme ta soeur de lait. Bien que chez lui, dans son école, ce n'est pas ça. Mais il lui a donné un avis qui existe dans une autre école. Ce que vous avez compris, c'est-à-dire qu'on ne reste pas figé, borné, figé dans une école. On voit les circonstances, on voit le cas des gens, etc. On leur donne des solutions quand ça nécessite. Par contre, si c'est un couple qui est venu le voir, et que c'est des gens qui ont été allaités, qui ont bu ne serait-ce une fois, il le répond sans de son école à lui. Parce que ce n'est pas une famille, etc., etc., ils n'ont pas d'enfants, etc. Ce que vous avez compris. Donc c'est tout faqih, c'est le savant, de voir comment il peut répondre selon, selon celui qui vient lui poser la question, selon son cas, etc., etc. Mais on reste toujours cadré dans une école, dans notre fiqh, dans notre pratique, etc. Selon la suite. Est-ce que vous avez, il reste 5 minutes, est-ce que vous avez des questions sur ces questions-là des écoles, etc., etc. Je vous laisse 5 minutes pour poser des questions. Ouais.
Chafi, il a complimenté Malik sur une science, je crois. Et Malik, il a complimenté.
Complimenté?
Oui, par rapport à un maître, par rapport à une science. Je crois que c'était le hadith.
Dire du bien, ouais, il a dit du bien de lui.
Dire du bien?
Oui, mais c'est quel...
Oui, bien sûr, bien sûr. Non,
les 4, ils ont dit du bien sur chacun.
Bien sûr, les 4, ils ont dit du bien sur chacun. Mais il y avait une fois une discussion, un débat entre... Vous savez, l'imam Abu Hanifa, c'était le plus proche des Sahaba. Il a rencontré 6 des Sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Anas ibn Malik. C'est le plus âgé, donc c'est le plus... Donc il a rencontré l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa. Donc il y avait une discussion avec eux, entre eux. Hein. Donc, vous imaginez, deux grandes sommités, et chacun il a une méthodologie. D'accord. Aujourd'hui, quand vous avez deux qui se rencontrent, quand ils sortent, chacun commence à insulter. Ah, espèce d'ignorant, lui, machin, il va le massacrer. Ces gens-là, c'est des gens pieux. Des gens pieux. C'est-à-dire, avant de parler de leur science, c'est des gens très proches d'Allah Azzawajal, point de vue sainteté, point de vue modestie, point de vue croyance, point de vue adoration, point de vue moralité, ce que vous voulez. L'imam Abu Hanifa qui est sorti le premier, parce qu'il n'y avait pas des gens qui ont assisté, hein. Il y avait qu'entre eux, ils s'échangeaient, chacun donne l'argument sur des questions qu'ils ont divergé. Quand l'imam Abu Hanifa est sorti le premier, ils lui ont dit, que penses-tu, que penses-tu de l'imam Malik? Il a dit, je connais pas sur terre, Abu Hanifa, quelqu'un qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'imam Malik. Il a dit, je connais pas quelqu'un. Et quand l'imam Malik est sorti, que penses-tu d'Abu Hanifa? Il a dit, je connais pas quelqu'un sur terre qui maîtrise l'analogie, raisonnement par le qiyas, comme l'imam Abu Hanifa. Il a dit, wallahi, parce qu'il était dans une mosquée, il y avait un pilier en argile. Si l'imam Abu Hanifa va venir et vous voyez le pilier est en argile, il va vous démontrer par analogie qui est fait en or, vous allez le croire. Tellement il est fort. Bien que vous voyez qu'il est en argile. Il a reconnu que l'imam Abu Hanifa est très très fort en raisonnement par analogie. Yes. C'est-à-dire que d'un seul verset ou d'un seul hadith, il peut tirer beaucoup de ahkam, beaucoup de commandements que nous, ou bien un alim passe à côté, il ne peut pas les voir, mais lui, tellement il est fort, Allah Azza wa Jalla a doué d'une intelligence très rare, l'imam Abu Hanifa. C'est dans ce sens. Sinon, l'imam Shafi'i, bien sûr, il a parlé de. Si l'imam Shafi'i, il était élève de l'imam Malik. Ou l'imam Ahmed ibn Hanbal était élève, il correspondait avec l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il dit, ça, ce que je vous dis, il est rapporté par. Zin al-Iraqi, al-Khatib al-Baghdadi aussi, il dit, l'imam Shafi'i, subhanallah, qui est un grand alim, une sommité, adib, l'imam Shafi'i, c'est pas possible, il une science rare. Il dit, quand j'ai une question, je ne trouve plus sa réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais prier la rak'atayn devant la tombe de l'imam Abu Hanifa, et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il choisit. Choisis devant la tombe. Pourquoi? Parce qu'il est considéré d'être un alim. Normalement, il dit, moi, je suis un alim, moi, c'est un alim. Ça dit, ya Allah, je suis rien. Je vais devant les savants qui sont normalement à mon niveau. Je suis comme eux, je suis moins qu'eux. Ça dit, la reconnaissance. Il va devant la tombe de l'imam Abu Hanifa, il prie deux rak'at. Il dit, wallahi, je ne me retire pas de la dernière sajda jusqu'à ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il me donne la solution. Allah, azza wa ta'ala, rapidement, il me donne la solution pour le hukm, tellement il reconnaissait, c'est une reconnaissance envers l'imam Abu Hanif qui l'a précédé. D'accord? Qui l'a précédé. Il y avait l'histoire de l'imam Ibn Malik, celui qui a écrit. C'est-à-dire la reconnaissance en science, c'est quelque chose, c'est très important. C'est-à-dire que il indirectement, il dit, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, ya Allah, j'enlève mon orgueil, je suis rien devant les hommes de science, tels que l'imam Abu Hanif a bien que c'est pas quelqu'un de son école, mais je suis rien, je m'efface. Quand tu t'effaces, Allah Azza wa Jalla te donne. Tu te vides de ton ego, Allah Azza wa Jalla te donne. Imam Ibn Malik, sahib al-Alfiya, le grand savant de la langue arabe, que vous avez sûrement entendu parler, il a écrit une poésie de 1000 vers. C'est une référence numéro 1 par excellence de la langue arabe. Avant lui, il y avait Ibn al-Azraq, qui a écrit une poésie de 1000 vers de langue arabe. Alors, l'imam Ibn Malik, qui était un grand savant, etc., il a écrit cette poésie. Ah oui, c'était Ibn Mu'ti. Afwan, c'est pas Ibn Azraq, c'était Ibn Mu'ti. Il dit, dans le début, dans l'introduction, il dit, je vais écrire Fa'iqatan al-Fiyat Ibn Mu'ti. Il dit, ma poésie, elle est meilleure que celle d'Ibn Mu'ti. Parce que Ibn Mu'ti, il a écrit une poésie de 1000 vers, en grammaire, et lui, il a dit, voilà, et bien c'est qu'un grand cheikh, Ibn Malik, il a dit, voilà, ma poésie, elle est meilleure que celle d'Ibn Mu'ti. C'est dans le troisième ou quatrième vers, hein, dès le début. Et c'est bloqué. Voilà. Il va écrire le quatrième vers, ça ne vient pas. Ah, vas-y, tu vas écrire 1000 vers, mieux Ibn Mu'ti, ah, yallah. Ibn Mu'ti, c'était un wali, min awliya Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était avant lui, plus de 100 ans. Ah, lui, c'est bloqué. Il l'a vu dans le rêve. Il a dit, alors, tu t'es bloqué? Il a dit, un blocage total. Il a dit, sans où les 1000 vers, relou. Il a attendu, ça ne passe pas. Il a dit, je vais te donner la clé pour tes 1000 vers qui restent. Je vais te les donner. « Wa huwa bi sabqin ha'izan tafdila, mustawjiban thana'i al-jamila. » Il lui a dit, ce vers-là, c'est la clé de ce qui va venir. Et lui, comme il m'a précédé, tout le mérite est pour lui. Moustaoujiban, Fana Yajamila. Et il mérite que je fais des prodiges, je parle du bien de lui. Donc il a corrigé ce qu'il a dit avant. D'accord. Donc c'était la clé, il a donné une poésie extraordinaire après. Ma frère. Donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, c'est ce qu'il fait avec l'imam Abu Hanifa. C'est ce qu'il fait avec Abu Hanifa. Il nous rapporte, l'imam Shafi'i, aussi le Khatib al-Baghdadi, nous rapporte, et d'autres aussi, il n'y a pas que lui, une histoire qui s'est passée entre l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i. Vous savez que l'imam Ahmed, c'était quelqu'un qui avait une grande épreuve avec les Mu'tazilites, qui était une secte qui donnait la priorité à la raison. À la raison. Donner la priorité à la raison au détriment du texte. C'est-à-dire dans la croyance, chez les sunnites, normalement, nous devons croire ce que Allah Azzawajal nous a dit, ce qui concerne le monde de l'au-delà, les attributs d'Allah, etc. Parce que c'est des choses qui sont du rêve, c'est pas du monde visible. Donc nous devons croire à cela et nous devons argumenter cela avec la raison. Les Mu'tazilites, ils font le contraire. Donc les Mu'tazilites, ils essayent de raisonner des choses de l'au-delà, ils leur donnent une conception de logique, et quand il y a le verset, ils essayent de l'adapter, on lui donne des interprétations afin qu'il s'adapte à la raison. D'accord. Donc c'est un dérapage. Et même Ahmed, qui était le cheikh de Al-Sunnah à son époque, donc il avait des débats avec les Mu'tazilites. Il avait des débats très forts. Hein. Et tous les sunnites, tous les gens viennent voir Imam Ahmed, qu'est-ce qu'il décide. Donc, parmi eux, eux dans leur logique, la parole, nous, on sait que tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont éternels. Ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas été créés. Et eux, ils disent que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est créée, les Mu'tazilites. Ils se basent sur la raison. Imam Ahmed a dit, elle est incréée. Donc, comme eux, ils avaient le pouvoir à l'époque, c'était le calife, il était Mu'tazilite, la police, le juge, etc. Ils l'ont frappé, ils l'ont torturé, etc., etc. Afin de faire pression sur lui, de dire ce qu'eux disent. Non, il a dit non. De toute façon, je ne peux pas dire quelque chose que je ne suis pas convaincu, c'est faux. Donc l'histoire lui a écrit ce mérite-là. Mais avant cela, une histoire s'est passée. C'est que l'imam Shafi'i a vu dans le rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire, cette histoire elle est rapportée par le Khatib Baghdadi aussi, qui est un grand hafez, c'est pas rapporté comme ça par des rigolos. Hein. C'est des gens qui la rapportent avec des chaînes de transmission. L'imam Shafi'i avait, parce que l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ne sont pas de même école, mais ils se rendent des visites entre eux. Ils s'échangeaient les avis, etc. L'imam Shafi'i était avant l'imam Ahmed. Et l'imam Shafi'i était élève de l'imam Malik. Non. Donc il lui a dit, j'ai vu le prophète, l'imam Shafi'i, il lui a envoyé quelqu'un, il lui a dit, va dire à l'imam Ahmed, que je l'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, et qu'il m'a dit, dis à l'imam Ahmed qu'il va avoir une grande épreuve sur une des questions de la croyance et qu'il faudrait qu'il résiste et que nous soutenons, on est avec lui, qu'il ne faut pas qu'il cède. Et même Ahmed, bon, il a remercié la personne qui est venue, etc., lui a rapporté cette information, etc., etc. Et en remerciant, parce qu'on a, par adab, dans les adab, quelqu'un qui nous ramène une bouchara, c'est-à-dire une bonne information, etc., on lui offre un petit cadeau. Et même Ahmed, il a enlevé sa djoubba, c'est-à-dire il avait un vidé, il lui a offert... Tu as le qamis de l'imam Ahmed, c'est pas n'importe quoi. Il lui a donné, ce cheikh, c'est un des élèves de Shafi'i. Il a plié, il l'a mis dans ses bagages, il est parti revoir Shafi'i. L'imam Shafi'i, il sait qui est l'imam Ahmed. Il sait que sûrement il a donné quelque chose à ce monsieur. Arrivé, il lui a dit, tu as transmis ce que je t'avais dit? Oui, j'ai transmis ce qu'il a dit. Et l'imam Shafi'i, il est considéré comme un cheikh par rapport à l'imam Ahmed. Parce qu'il était avant lui, etc. Tu lui as transmis? Oui, je lui ai dit. Il t'a rien donné? Il a dit, il m'a donné quelque chose, mais je le garde. Il t'a donné quoi? Il m'a donné son kamis. Il a dit, d'accord, tu le gardes, mais donne-le-moi, voilà, et je te le rends. Parce qu'on sait, toi, tu le gardes. Il lui a donné. Vous savez ce qu'il a fait, l'imam Shafi'i? Il l'a lavé, et s'est douché avec cette eau-là. Tabarrokan. Tabarrokan. Même Shafi'i, qui est considéré plus âgé, plus vieux que l'imam Ahmed, il fait tabarrok. Avec l'eau de Khamis. Et la Baraka, on peut ramener des hadiths. Hein, on a des stocks des hadiths pour ceux qui disent c'est quoi Baraka. On a un verset déjà. Hein. Sidna Yaqub, quand il a perdu les yeux, c'est qu'est-ce qui lui a rendu la vue? C'est la Baraka du Khamis de son fils. Sidna Yusuf, il a dit, tenez à ses frères, arrivez quand vous allez voir mon père, jetez-le sur ses yeux. Quand il va sentir mon odeur par la Baraka, il va retrouver ses yeux. C'est le verset, ce n'est pas un hadith. Hein, pour vous dire que ces gens-là, c'est une sorte de modestie ce que l'imam Shafi'i a fait. Il a dit, bon, ben, il t'a donné le khamis, bon, moi j'ai un khamis beaucoup plus brillant. Moi, c'est des gens qui ont une grande modestie entre eux, un grand respect entre eux, un grand amour entre eux, malgré que ce sont des sommités de science. Et chacun respectait la vie de l'autre. Il ne minimisait pas ce que l'autre dit. Au contraire, il le respectait. On va se limiter à cela, inchallah, si vous n'avez pas de questions. Non, il sera.
Une question, est-ce qu'on peut suivre l'avis de quelqu'un qui dit voilà, la vie majoritaire selon les quatre écoles, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, trois avis.
Non. On suit l'école malikite. Pas de khalota, disma khalota, jalota. Allez, chauffe. On suit l'école malikite. Déjà, si on maîtrise les avis dans l'école, déjà, on est champion. Parce que dans l'école même, vous n'avez pas un avis. Dans l'école même, il faut regarder le livre de l'imam, ce qu'a fait l'imam Khalil, c'est-à-dire, on a un grand savant malikite qui s'appelle Ishaq Khalil. Le livre de l'imam Khalil, c'est l'un des plus difficiles ouvrages dans toute l'histoire du fiqh dans les quatre écoles. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un effort exceptionnel, c'est que déjà, la langue arabe, elle est très dure. Hein. C'est l'arabe chinois, c'est-à-dire, tu lis en arabe, mais tu ne comprends pas. Hein. Moi, je l'ai dit à des imams, des arabes, je dis, répétez-moi juste cette phrase. Il ne peut même pas la répéter, alors là, comprendre, tu l'as dit 10 fois, il ne peut pas la répéter. Donc, au fond, Khalil, ce qu'il a fait, dans toute l'école, prenons l'école Hanafite, juste l'école Hanafite, les livres de référence, je ne parle pas des autres ouvrages, de Charh, etc. Référence, il y a 13 000. Dans l'école Hanafite, les livres de référence, il y a 13 000. Dans l'école Malikite, il y a à peu près 8-9 000. Les livres de référence. Alors, va-toi, dans les 8 000 ouvrages, vous avez des avis, des divergences, des arguments, etc. Dans l'école, dans les débats, etc., sors-moi quel avis que tu vas suivre. Sans parler des quatre écoles. Alors, déjà, dans l'école, on nage. Déjà, si on s'en sort dans l'école, c'est déjà pas mal. Alors, monsieur, eh bien, vous savez, la vie majoritaire, c'est du n'importe quoi. Ne suivez pas ceux qui vous disent ça. Ils disent n'importe quoi. Bien sûr, on va trouver chez des grands savants, tel l'imam Ibn Rushd, dans son livre Bidayat al-Mujtahid, mais le livre s'appelle Bidayat al-Mujtahid. C'est-à-dire le début, ou bien le départ du Mujtahid, celui qui a atteint. Il y a des ouvrages qui sont destinés aux grands savants. C'est-à-dire pour leur parler des arguments de chacun. Mais ce n'est pas destiné à nous, à notre niveau. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 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 wa